Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Je m'appelle François Doyon-Larochelle et je suis gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 25, dans l'actualité, la Caisse de dépôt et de placement du Québec vend ses actions dans les banques canadiennes. Ensuite, nous avons une table ronde au sujet des actions de pays émergents. Comme troisième point, le bon conseil du jour, envisager d'acheter des FNB négociés au Canada pour les actions américaines et internationales. Et finalement, nous répondons à la question d'un auditeur qui craint l'impact d'une hausse des taux d'intérêt sur les FNB obligataires. Bonne écoute! Bon, je vous présente comme à l'habitude mes bien chers confrères James Parkin. James, tu es gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Salut James!
Bonjour François!
Et Raymond Kerzero. Raymond, tu es notre directeur de la recherche. Salut Raymond!
Salut François!
Bon, ben c'est parti. Je vais commencer avec l'actualité. Puis dans l'actualité, ce qui a retenu mon attention, c'est la Caisse dépôt et de placement du Québec vend ses actions dans les banques canadiennes. Donc, le 18 août dernier, le journal La Presse publie un article selon lequel la Caisse dépôt et de placement du Québec, l'un des plus grands gestionnaires de caisses de retraite au Canada, avait réduit de façon substantielle lors du deuxième trimestre 2021 ses positions dans les grandes banques canadiennes. Les informations obtenues par La Presse proviennent de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, car les grands investisseurs institutionnels sont tenus de déclarer à la SEC chaque trimestre le contenu de leur portefeuille d'actions négocié sur le marché américain. Étant donné que les grandes banques canadiennes sont également cotées aux États-Unis, la Caisse est donc tenue de faire cette déclaration. Donc, l'article mentionne le nom des banques et le nombre d'actions qui a été vendu. Donc, la Caisse aurait vendu pour 3,7 millions d'actions de la Banque Royale, 3,7 millions également de la Banque Scotia, 2,5 millions d'actions de la BMO et 1,9 millions d'actions de la Banque TD. Cependant, pour des raisons de compétitivité, la Caisse ne donne pas les raisons pour la vente, ni le coût d'achat, ni le prix de vente. Ceci dit, pour certains investisseurs, malgré le manque de détails, l'information peut être interprétée comme un signal de vente des banques. Mais devrait-on vraiment faire cette déduction? Pour fin d'illustration, je vais supposer que la Caisse a vendu ses actions dans les banques le 30 juin dernier. Donc, avec le nombre d'actions vendues et le prix de clôture au 30 juin, je peux déterminer approximativement la somme totale qui a été vendue par la Caisse. Donc, la Caisse a vendu pour à peu près 462 millions de la Banque Royale, 269 millions de la Banque Scotia, 317 millions de la BMO et 165 millions de la Banque TD pour un grand total approximatif de 1,2 milliard de dollars. J'en conviens, ce n'est pas une petite somme d'argent. Par contre, il faut remettre sans perspective, étant donné que la Caisse gère 390 milliards de dollars, cette somme ne représente qu'un maigre 0,3% de ses actifs. Puis si je compare maintenant cette somme à ses actifs dans les marchés boursiers mondiaux de 118 milliards, ses ventes ne représentent que 1% de ses actifs. Et finalement, si je compare cette somme aux investissements de la Caisse dans les marchés boursiers canadien de 24 milliards, ses ventes ne représentent que 5,6% de ses actifs dans le marché canadien. En poussant mon raisonnement un peu plus loin, sachant que dans l'indice S&P/TSX Composite, le secteur des financières représente à peu près 31% de l'indice, la Caisse devrait avoir près de 8 milliards de dollars d'investis dans les banques canadiennes si elle suivait de plus ou moins près là, l'indice boursier. C'est ce qui m'amène à conclure qu'avec cette vente de 1,2 milliard d'actifs des banques, la Caisse aurait diminué de seulement 15% son allocation dans les financières. Donc, on est loin du titre de l'article qui laisse sous-entendre que la Caisse a largué toutes ses positions dans les banques canadiennes. De plus, si on se fie à l'article, la Caisse aurait probablement liquidé ses positions à cause de la forte progression des banques depuis le creux du 23 mars 2020. Cependant, après une petite analyse, là, il y a seulement que la BMO qui a donné un rendement qui était considérablement supérieur à l'indice S&P/TSX Composite pendant la période allant du 23 mars 2020 au 30 juin 2021. Les trois autres banques ont eu des rendements qui étaient assez similaires au S&P/TSX Composite. Pour conclure, là, je J'en profite pour réitérer à nos auditeurs de ne pas accorder trop d'importance à ce genre de nouvelles, car elles risquent autrement d'influencer vos décisions de placement. Gardons toujours à l'esprit que pour chaque vendeur, il y a un acheteur, et pour chaque acheteur, il y a un vendeur, et que durant cette même période où la Caisse vendait des actions des banques canadiennes, l'article mentionne également qu'un autre gros joueur institutionnel canadien, Investissement PSP, le gestionnaire qui gère les régimes de pension du secteur public du gouvernement fédéral canadien, lui achetait des titres de la banque TD. Donc, le marché des actions sont efficients. Il est donc contre-productif de négocier activement vos titres en portefeuille. Messieurs, des commentaires?
Oui, François. Écoute, je suis d'accord avec tes propos à l'effet que, premièrement, que c'est probablement dû à un rebalancement. Les banques ont bien fait, mais comme tous les actions, de façon générale, ont bien fait depuis le creux de mars 2020, dans le début de la pandémie de COVID. Deuxièmement, c'est un exemple classique où la manchette peut influencer un investisseur à remettre en question une stratégie. Donc, on revient sur nos principes de base. Est-ce que je suis spéculateur ou investisseur? Si je suis investisseur à long terme, je suis très diversifié avec un indice canadien d'action qui est un point important dans les services financiers. Tout ça, c'est simplement du bruit court terme. Et il n'y a pas lieu de s'influencer ou d'agir en fonction de ça. Ceci dit, il y a beaucoup d'analystes qui prédisent que les banques canadiennes vont en arracher une fois qu'il va y avoir une correction dans le marché immobilier canadien qui est parti en flambée à la hausse et que les Canadiens sont très surendettés. On sait que le prix des maisons au Canada, si on fait des comparaisons à l'échelle mondiale, ils sont très dispendieux. Donc, ça se peut que ça va causer des problèmes pour ce secteur-là. Ceci dit, les grandes banques viennent de publier leurs résultats financiers, puis c'est des montants de profits absolument astronomiques. Mais en partie, il y a un élément là-dedans, c'est que l'année dernière, les régulateurs leur ont demandé de prendre des provisions additionnelles pour au cas de pertes sur des prêts non performants reliés potentiellement à la crise de COVID. Et ça ne s'est pas matérialisé de façon pratique. Fait que l'assouplissement des règles fait en sorte qu'ils peuvent maintenant ramener ces provisions-là dans les bénéfices. Fait qu'ils sont très, très bien positionnés. Ils font beaucoup, beaucoup d'argent. On sait que si on compare le secteur financier canadien à l'échelle mondiale, historiquement, il a été très stable, très profitable, avec un taux de dividende très élevé. Donc, je ne pense pas qu'il y a de grosses leçons à tirer pour nos auditeurs avec cette manchette-là, puis mieux vaut respecter son plan d'investissement à long terme.
Raymond, des commentaires?
Oui, la meilleure pondération, c'est d'avoir la pondération du marché, donc la pondération de l'indice, tel qu'on va la trouver dans un FNB comme XIC ou ZCN, ça donne pas mal la bonne pondération. Puis ça permet justement là, de pas se laisser angoisser là, avec ce genre de manchette-là qui, de toute façon, malgré leur grande influence, la Caisse de dépôt, les gestionnaires sont pas plus clairvoyants que vous et moi.
Excellent. Merci, messieurs. Donc, notre sujet principal cette semaine, c'est les actions de marché émergent. Donc, je vais commencer. Selon Crédit Suisse, le terme marché émergent a été introduit au début des années 80 par la Société financière internationale, qui fait partie de la Banque mondiale, pour désigner les pays en développement avec des revenus moyens à élevés qui sont en transition vers le statut de développé. Ces pays connaissent souvent une croissance et une industrialisation rapide et ont des marchés boursiers dont la taille, l'activité et la qualité augmentent. Un marché émergent, ce n'est pas la même chose qu'une économie émergente, il faut faire attention. Le FMI, le Fonds monétaire international, classe les pays en économie avancée et en développement. Il se concentre principalement sur des critères qui sont économiques, tels le PIB par habitant, la diversification des exportations, le degré d'intégration dans le système financier mondial. En revanche, les fournisseurs d'indices tels que MSCI, FTSE et S&P utilisent une combinaison de critères qui sont économiques et de marchés de capitaux tels que la taille du marché, la liquidité, l'accessibilité aux investisseurs mondiaux. Ça implique de prendre en compte l'ouverture à la propriété étrangère, la facilité d'entrée et sortie de capitaux, le droit des investisseurs, le cadre réglementaire et des questions telles que la capacité de vendre à découvert. L'opinion des investisseurs et du marché compte également. Au début des années 2000, les pays émergents totalisaient 3 % de la capitalisation boursière mondiale et 24 % du PIB mondial. Ils représentent maintenant 14 % de la capitalisation boursière mondiale, donc une belle augmentation depuis 20 ans, et 43 % du PIB mondial, donc presque le double d'il y a 20 ans. La Chine est le pays émergent qui est le plus important. Son poids dans la capitalisation boursière mondiale est de 5,1 %. C'est le troisième pays en importance après les États-Unis, avec 56 %, le Japon à 7,4 %, et il y a le Royaume-Uni qui vient juste derrière la Chine à 4,1 %. Raymond, as-tu des choses à ajouter là-dessus?
Oui, ben en fait, les marchés émergents, c'est devenu vraiment un incontournable. Donc, nous, on l'intègre depuis plusieurs années dans la composante internationale. On a vu en 2009, une des firmes avec laquelle on investit, Dimensional, a intégré les marchés émergents dans leur fonds d'action international. Et nous, c'est notre raisonnement. Ça fait partie maintenant des marchés mondiaux intégrés. Et puis, effectivement, à cause de leur pondération puis de leur participation dans la libre économie internationale, on peut difficilement les ignorer.
James, as-tu des choses à ajouter? Pourquoi on voudrait inclure les actions de marché émergents dans les portefeuilles? Puis c'est quoi les bénéfices?
Oui, en fait, des bénéfices, il y en a beaucoup. Je vais souligner quelques-uns pour nos auditeurs. Bon, premièrement, il y a la diversification. Il y a plus de 3000 entreprises qui sont cotées dans les indices de marché émergents. On voit que la croissance économique est là, fait que c'est tout à fait normal que la croissance au niveau des marchés financiers dans ces pays-là évolue aussi. Puis les statistiques que vous avez citées sont en appui à ce phénomène. Aujourd'hui, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a plusieurs choix de fonds transgés en bourse, dont plusieurs qui sont cotés sur les bourses canadiennes. En exemple, le fonds transgé en bourse VEE de Vanguard a un frais de gestion annualisé de 0,23%. Donc, on voit que les frais ont beaucoup, beaucoup baissé. Et c'est un défi pendant longtemps, les frais de gestion dans les marchés émergents, parce que la garde des valeurs, c'était très compliqué, les réglementations locales. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Quand on regarde à long terme, c'est sûr qu'on veut un portefeuille le plus diversifié possible. Et on va en parler tantôt dans les compositions des marchés émergents. C'est très différent de ce que c'était. Non seulement le poids est plus élevé, mais les secteurs, les sous-secteurs sont, qui sont des points importants, c'est très différent de ce que c'était à l'époque. Donc, c'est un marché maintenant qui est trop important pour être ignoré. Et le risque des Pays-Bas individuels a diminué au cours des 20 dernières années, encore selon le rapport annuel de Crédit Suisse. Donc, pour nous, c'est devenu pas mal un incontournable. Et je ne sais pas si on l'a cité dans nos propos à date, mais nous, PWL, on intègre ça depuis 2009. Donc, et je réitère pour nos auditeurs, pour nous, chez PWL, la façon qu'on structure un portefeuille, la composante des actions, c'est il y a un panier d'actions canadiennes, il y a un panier d'actions américaines, et là, il y a un panier d'actions internationales. Donc, le panier d'actions internationales, ça inclut le développé de marchés émergents. Et le poids de celui-là est à peu près, il était il y a quelques années 25 %, mais ça se rapproche pas mal plus maintenant du 30 % avec la croissance de ces marchés-là. Donc, c'est vraiment un incontournable.
Excellent. Raymond, qu'est-ce qui différencie les pays émergents d'un marché développé?
Bien, la première des choses, c'est qu'un marché émergent, c'est un marché où on parle d'un pays où le revenu intérieur brut par habitant est plus bas en moyenne que celui des marchés développés. Donc, c'est vraiment le premier critère pour démarquer les marchés émergents. D'autre part, il demeure que les marchés émergents, pour se qualifier comme tels, doivent tout de même avoir une bonne liquidité, peut-être pas aussi bonne que les marchés développés, mais quand même une assez bonne liquidité. Et troisièmement, le marché est ouvert et accessible aux investisseurs. Donc, essentiellement, c'est faisable pour les investisseurs d'aller dans ces pays-là, les investisseurs étrangers d'aller dans ces pays-là et d'investir là de façon libre.
James, tu as abordé le sujet de la structure des marchés émergents qui a changé avec les années. Là, peux-tu nous en dire un peu plus maintenant?
Oui, mais commençons premièrement à énumérer les 10 pays qui ont les poids les plus importants dans les indices de marchés émergents. Ben, en fait, je devrais peut-être commencer. Il y a deux grands fournisseurs d'indices et donc c'est le FTSE FTSE et le MSCI de Morgan Stanley. C'est intéressant, les composantes ne sont pas les mêmes et il va falloir faire attention dans les choix de fonds transgés en bourse quand on va construire nos portefeuilles. Donc la Chine pour FTSE représente 37,2% et dans celui de MSCI représente 30,6%. Ceci dit, MSCI inclut la Corée du Sud, tandis que celui de FTSE ne l'inclut pas. Il le considère comme les pays, parmi les pays développés. Donc, c'est une technicalité. Mais si on revient sur les 10 noms, c'est la Chine, le Taïwan, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Fédération russe, le Thaïlande, le Mexique et la Malaisie. Donc, exception faite de la Corée du Sud, où c'est différent, on voit que la Chine devient de plus en plus pesant dans cet indice-là. Et le Taïwan, qui est un pays au niveau population qui est tout petit, lui, c'est assez intéressant, un poids très, très important. Donc, en termes techniques, les sous-secteurs maintenant, ben, ce qui est intéressant, et pendant beaucoup d'années, on disait que les actions canadiennes étaient très corrélées avec les marchés émergents parce que tous les deux, ces indices-là avaient un poids important dans les ressources, mais c'est plus autant vrai pour les marchés émergents. Aujourd'hui, la technologie représente 20% de l'indice. On pense aux grandes sociétés, le plus grand manufacturier de semi-conducteurs, Taiwan Semiconductors, le groupe Alibaba en Chine, le groupe Tencent Holdings. Fait qu'on voit que c'est des actions qui ressemblent un peu aux 10 grandes compagnies américaines qui ont des poids importants. Donc, le deuxième secteur par importance, c'est de 17% les services financiers. Puis finalement, la consommation discrétionnaire représente 15%. Donc, sans surprise, comme je disais, le pays le plus pesant, c'est la Chine. C'est normal, fonction de sa croissance économique, son poids dans l'économie mondiale. Mais là, il faut faire des nuances entre les actions de catégorie A, H, les actions qui sont disponibles à être achetées par les citoyens chinois versus les étrangers. Alors, beaucoup de gens, les questions qu'on a de clients, et je suis sûr que nos auditeurs ont cette question, est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport au choix de marché émergent parce que la Chine, on est plus ou moins sécure. On a vu cette semaine, la Chine a fait une annonce comme quoi ils allaient empêcher leur société technologique à s'inscrire sur les bourses américaines. Donc, encore une fois, il faut revenir au poids qui a été mentionné, c'est 5,1%. Donc, si ça représente à peu près 30% de notre allocation en actions internationales, ben, puis on a, exemple, 40% en actions internationales, ben, t'as 5,1 le poids de la Chine, ça va représenter moins que ça. Fait que finalement, c'est pas une allocation qui pourrait nuire ou dilapider du capital. Donc, c'est ce que j'aurais ajouté au niveau de la structure des marchés, François.
Merci, James. Du côté des obligations, Raymond, c'est sûr que les pays émergents ont des obligations. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, absolument. Mais en fait, les obligations de marché émergent sont plus semblables à ce qu'on appelle des obligations à rendement élevé. Dans l'ensemble, c'est des obligations qui comportent un risque de crédit supérieur à la moyenne. Et nous, bien, notre philosophie de placement, c'est que l'allocation en titres à revenu fixe ou en obligation, c'est supposé être très, très sécuritaire. Donc, pour cette raison-là, mais aussi pour le fait que investir dans les obligations de marchés émergents, malgré qu'il existe des fonds négociés en bourse, les fonds négociés en bourse sont quand même assez dispendieux. Les honoraires de gestion se situent entre 50 et 60 points de base. Donc, okay, ouais. Dans l'ensemble, ça ne cadre pas super bien dans notre philosophie de placement. C'est dispendieux. Puis, je te dirais que si on regarde dans l'ensemble, ça apporte un petit peu de diversification supplémentaire, mais ça vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle à cause des frais en général.
Excellent, merci vraiment. Puis les rendements passés, James, des pays émergents, c'est, je suis sûr que c'est une question que nos auditeurs aimeraient te poser. Donc, de quoi ça a l'air?
Bon, en fait, les marchés émergents ont largement sous-performé les marchés développés depuis 10 ans, mais ils se sont quand même bien comportés depuis 20 et 30 ans. Regardons les statistiques. Donc, les 10 dernières années, les marchés émergents ont fait 6,8% et les marchés développés 14,7%. Ici, encore, il faut comprendre que les marchés développés incluent les États-Unis. Donc, on a l'influence des 10 grands méga compagnies dont on connaît Netflix, Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc. Et donc, c'est vraiment probablement dû à ce différentiel-là. Sur 20 ans, par contre, les marchés émergents ont fait 9,3% et les marchés développés 6,9%. Et ça, on sait que la décennie qui a précédé 2010, donc de 2000 à 2009, c'était une décennie perdue pour les actions américaines. Donc ça aussi, ça explique probablement la surperformance des marchés émergents. Mais sur 30 ans, ça s'équivaut pas mal. 8,4% des marchés émergents puis 8,9% pour les marchés développés. On voit que la volatilité mesurée sur la déviation standard sur 5 ans, c'est 12,7% pour les marchés émergents puis 11,1% pour les marchés développés. Fait qu'encore une fois, c'est plus volatile. On s'attend à ça, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que c'était à l'époque. François, tu soulignais qu'en 2000, les marchés émergents, c'était 3% de la capitalisation boursière. Puis moi, je me rappelle ces époques-là. On appelait ce créneau-là des marchés émergents le marché des déchets toxiques parce que finalement, les investisseurs mondiaux, les gros joueurs, on s'intéresse à ça. Puis parce que le pot était si petit, tout le monde essayait de rentrer par la même porte en même temps. Fait que ça faisait augmenter rapidement les valeurs. Puis là, quand tout le monde disait ah, ben c'est plus intéressant les marchés émergents, on va tout vendre en même temps, comme des moutons. Puis que là, ça avait une volatilité à la baisse. Fait que c'est pour ça qu'on appelait ça négativement, que c'était très, très volatile. Donc aujourd'hui, c'est très différent. Le poids est beaucoup plus pesant. Donc, les flux d'argent qui vont rentrer et sortir, ça va être, c'est normal que ce soit moins volatile que ça l'a été dans le passé. Donc, c'est une raison en partie. Il y a beaucoup de... Il faut croire aussi que les actions canadiennes et américaines sont aussi moins volatiles maintenant qu'ils l'étaient dans les années avant 2000. Donc, c'est ce que j'aurais ajouté pour la performance historique, François.
Merci, James. Là, on vient de parler de performance historique, mais qu'en est-il des rendements espérés, Raymond? Là, je pense que tu as fait un peu d'études là-dessus, ou du moins de la recherche chez PWL.
Oui, bien, c'est une bonne partie de mon mandat à PWL. Nous, ce sur quoi on se base pour estimer les rendements espérés, c'est en partie la performance historique, mais on n'a pas beaucoup de chiffres historiques pour les marchés émergents, mais on regarde aussi la cherté des différents marchés, combien qu'on paie pour un dollar de bénéfice. Et effectivement, les marchés émergents sont de façon assez constante depuis au moins une dizaine d'années, beaucoup passablement moins chers que les marchés développés. Là, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, au 30 juin dernier, donc on a des chiffres quand même assez récents, les marchés émergents n'étaient évalués qu'à 17 fois leur bénéfice par action corrigé en fonction des variations cycliques, le fameux ratio cours-bénéfice de Shiller. Donc, 17 fois. Pour faire une comparaison, le même ratio pour le Canada est à 26 fois. Pour les pays développés hors Amérique du Nord, le ratio est de 22 fois. Et pour les États-Unis, tenez-vous bien, le ratio cours-bénéfice est de 37 fois. Wow. Les profits. Wow. Donc, effectivement, oui. Donc, selon moi, on ne connaît pas l'avenir, mais le meilleur estimé qu'on a pour les rendements projetés est plus élevé pour les marchés émergents que pour les marchés développés en général à l'heure actuelle.
Excellent. James, d'autres commentaires?
Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour du jardin sur ce sujet-là. Donc, j'espère que nos auditeurs vont en profiter dans leur choix de placement et vont penser, quand ils regardent leur portefeuille, que les marchés émergents, ça doit être une composante, si pas très pesante, ça doit être présent dans tout bon portefeuille bien structuré.
Excellent. Moi, avant de conclure, j'aimerais juste ajouter, vous donner un petit conseil, là. quand vous allez bâtir votre allocation aux marchés internationaux, essayez d'utiliser des FNB de la même famille de fonds pour que vous ayez des mêmes indices, même famille d'indices dans vos portefeuilles. Si vous prenez un produit Vanguard pour les pays émergents, prenez le produit Vanguard également pour les pays développés. La même chose si vous prenez un indice ou un produit iShares qui utilise l'indice MSCI pour les pays émergents, prenez le produit iShares de pays développés également qui utilisent l'indice MSCI parce que vous pourriez vous retrouver sans allocation. Si vous faites un mélange, vous pourriez vous retrouver sans allocation en Corée du Sud ou avec une double allocation en Corée du Sud, là, dépendamment. Donc, faites attention. Donc, pour notre prochain sujet, c'est le bon conseil de la semaine. Envisagez d'acheter des FNB négociés au Canada pour les actions américaines et internationales. Et James, c'est à toi, c'est ton sujet.
Oui, en fait, c'est une histoire de bon conseil. Donc, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Rob Carrick, dans le cahier des affaires du Globe and Mail, a publié un article le 4 février dernier. Pourquoi les investisseurs canadiens devraient cesser d'acheter les FNB cotés aux États-Unis? Et dans son article, il a mis en évidence trois raisons ou avantages principaux. La première, c'est qu'aujourd'hui, les manufacturiers de fonds transigeants en bourse nous offrent beaucoup plus de choix pour investir soit aux États-Unis, soit à l'international. Mais avec des FNB qui sont cotés au Canada. C'est intéressant. De pair, quand on compare les frais de gestion, ils ont beaucoup diminué ces produits-là au Canada parce qu'on attire beaucoup plus d'actifs, il y a beaucoup plus de manufacturiers qui veulent se concurrencer. Donc, c'est une très bonne nouvelle que non seulement on a un choix, mais on a des prix, des frais de gestion qui sont très comparables à des équivalents qui sont cotés en bourse américaine. Le troisième point que Rob Carrick souligne, c'est les écarts dans les coûts pour les taux de change. Et si nous, on a les dollars canadiens et on veut investir dans des fonds transigés en bourse qui sont cotés aux États-Unis, il faut convertir nos dollars canadiens en dollars US. Nous, comme investisseurs, nos sommes qu'on a à convertir ne sont pas si élevées. Fait que si on est un joueur institutionnel, donc on achète un fonds transigeant en bourse coté au Canada qui, lui, va faire la conversion en dollars US pour acheter, exemple, les actions américaines ou les actions internationales qui vont être cotées en dollars américains. Fondamentalement, c'est beaucoup moins coûteux de le faire par l'entremise de fonds cotés au Canada. Donc, c'est toutes des très bonnes raisons et probablement pour des raisons de longueur ou de complexité, il n'a pas adressé d'autres avantages que moi, je juge sont très, très importants pour favoriser les fonds transigeants en bourse canadiens parce que la fiscalité peut nous jouer des tours. Donc, première des choses, c'est que, et je dois mentionner que nos collègues à Toronto ont publié des papiers sur ce sujet et on pourra vous offrir les liens sur le balado pour aller voir ces articles-là. Ils ont expliqué en long et en large que quand on investit en international, on achète des compagnies canadiennes ou internationales, les revenus de dividendes vont faire l'objet de retenues d'impôts étrangers à la source. Et selon les divers traités fiscaux, c'est généralement limité pour des dividendes, exemple, à 15 % Au Canada, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de double imposition, donc on est en mesure de réclamer un crédit d'impôt pour ça. Ceci dit, ça dépend si on achète ça dans un RIR, un FER, un CELI, un régime d'épargne-études, les règles fiscales peuvent être différentes. On sait que le traité fiscal canadien-États-Unis offre des avantages pour des investisseurs qui ont des régimes de retraite RIR ou FER. Tous ces deux comptes-là sont reconnus par le traité et par conséquent, les États-Unis n'obligera pas de l'impôt retenu à la source de 15 %. Par contre, pour les comptes libres d'impôt, ce ne sont pas des comptes reconnus par les autorités américaines comme un compte de retraite et par conséquent, le 15 % de retenue d'impôt à la source va être chargé, mais parce que c'est un CELI au Canada, il n'y aura pas de T5 qui sera émis et on ne pourra pas demander un crédit d'impôt étranger. Donc, il faut faire attention et finalement, dans les comptes non enregistrés, un T5 va toujours être émis. Et là, on va pouvoir réclamer son impôt étranger. Donc, si on achète un fonds étranger en bourse canadienne qui va acheter des actions américaines, il faut faire autant attention que si on achète ceux américaines à savoir dans quel compte on va les acheter. Mais de façon générale, on devrait avoir dans les comptes appropriés non enregistrés un crédit d'impôt. Finalement, on a les gains en capital, que ce soit des fonds transgés en bourse négociés au Canada ou aux États-Unis. Le traité fiscal fait en sorte que les gains vont être imposés dans son pays de résidence fiscale. Donc, même si on achète des fonds transgés en bourse américaine, on ne sera pas imposé aux États-Unis pour le gain en capital. Donc, il n'y a pas d'avantage ou désavantage à acheter un fonds en transit en bourse canadien. Le deuxième point qui est à souligner et qui est très, très important, et c'est probablement celui que je juge serait le plus important comme considération pour nos auditeurs, c'est qu'on veut s'éviter d'avoir des problèmes d'impôts successoraux américains. Et encore ici, c'est un risque potentiel. Un résident canadien qui détient des actifs situés aux États-Unis, mais comme un condo en Floride, des actions de sociétés américaines ou des fonds étrangers en bourse cotés sur les marchés américains, ils vont être sujets à ces droits successoraux-là. Et les règles sont très compliquées. Il faut faire appel à des spécialistes dans la fiscalité transfrontalière pour bien se faire conseiller. Mais essentiellement, le seuil est de 60 000 $ US par personne. Donc, dès qu'on détient plus de 60 000 de fonds transgés en bourse américain ou actions ou autres actifs, on va devoir déclarer, même si on ne doit pas d'impôt, on va devoir produire une déclaration des revenus aux États-Unis. Bon, fait que là, ça revient.
James, oui? Ça, c'est lors du décès.
C'est lors du décès. C'est pour ça que c'est un risque potentiel. Oui. Mais nous, on préconise d'avoir une mentalité d'investisseur et non de spéculateur. Et on veut acheter ces fonds étrangers en bourse maintenant. Et ça peut prendre beaucoup de valeur dans le temps. Les règles fiscales ont beaucoup changé au fil des années et peuvent changer à l'avenir pour le mieux ou pour le pire. Donc, si on achète un fonds étranger en bourse canadien, cet actif-là, même s'il achète des actions américaines, ne sera pas considéré comme des actifs situés aux États-Unis. Par contre, si on achète un fonds étranger en bourse qui va couvrir le même indice américain, mais qui est étranger aux États-Unis, cet actif-là, la valeur totale, va faire partie de la valeur de la succession qui serait sujet aux impôts successoraux américains. Donc, encore une fois, c'est très complexe comme sujet et on n'a pas le temps de couvrir tous les détails, mais c'est un aspect important qui devrait nous influencer vers acheter des fonds étrangers en bourse canadien pour les actifs US ou internationaux. Finalement, le troisième point, c'est que c'est des exigences de conformité fiscale. Encore une fois, on achète le fonds transigé en bourse au Canada qui achète des actions américaines. On n'aura pas à déclarer dans le formulaire d'impôt T1135 la vérification du revenu étranger. Au niveau des gains et pertes en capital réalisés, ça va être plus facile. Et je parle de ceux qui sont achetés en dollars canadiens, donc on n'a pas à suivre les taux de devise pour tous les achats. Un petit rappel pour nos auditeurs, si vous détenez un titre américain dans un compte non enregistré, vous devez suivre le prix de base réajusté et il s'agit généralement du prix que vous avez payé plus les commissions. Mais là, il faut trouver la valeur en dollars canadiens, il faut utiliser le taux de change au moment de l'achat. Fait que chaque fois qu'on fait un achat, en dollars américains, il faut garder ce coût fiscal-là et donc il faut faire les ajustements. Fait que on ne peut pas simplement prendre le taux de change au moment de la vente pour rétablir son coût fiscal canadien. Il faut vraiment utiliser les taux de change au moment des achats. Donc, si on veut simplifier notre conformité fiscale, on est de loin avantagé avec les fonds négociés en bourse au Canada pour les actions américaines et internationales.
Raymond, as-tu des commentaires additionnels?
Oui, mais je pense que d'investir avec des FNB négociés au Canada, premièrement, il y a tout ce qu'il faut. Hein. On n'a pas besoin d'aller chercher aux États-Unis. Effectivement, dans les débuts de PWL, au début des années 2000, il y a beaucoup de choses, beaucoup de classes d'actifs qui n'étaient pas offertes sur les marchés canadiens. Mais maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer les avantages de la simplicité. Donc, moi, que ce soit pour nos auditeurs ou chaque fois que je parle à un investisseur, qu'il soit n'importe qui, très fortuné ou moins fortuné, je propose tout le temps de favoriser la solution la plus simple. Ça va apporter des avantages importants, notamment au niveau comportemental, de toujours rester discipliné dans notre stratégie.
Ouais, moi, pour conclure, je dirais que depuis un certain temps, on commence de plus en plus à utiliser les fonds négociés au Canada pour notre allocation américaine et internationale à cause qu'il y a beaucoup plus de produits maintenant disponibles. Auparavant, on utilisait, comme tu dis, Raymond, les produits américains, mais maintenant, pour toutes les raisons que James a mentionnées, on utilise de plus en plus les produits canadiens. Donc, merci, messieurs. Donc, notre prochain point, c'est la question d'un auditeur. Encore une fois, j'aimerais remercier nos auditeurs pour les questions qu'ils nous soumettent. Puis, si vous avez des questions à nous soumettre, vous pouvez les envoyer à sujetcapital@pwlcapital.com. Et la question pour cette semaine, c'est « J'envisage l'achat d'un FNB obligataire, mais je crains que la hausse des taux d'intérêt ne réduise sa valeur au fil du temps. En revanche, si j'achète des obligations individuelles échelonnées, je ne serai pas impacté par la hausse des taux. Tant que je conserve mes obligations jusqu'à leur échéance, je suis certain qu'elles retrouveront leur pleine valeur nominale. Que pensez-vous que je devrais faire? » Raymond, avant de répondre à la question, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi des obligations individuelles échelonnées?
Oui, tout à fait. Alors, on essaie de créer son propre portefeuille d'obligations ou son propre FNB d'obligations, si on veut. Si on veut faire des obligations échelonnées de 5 ans, on va acheter 5 obligations avec en montant égaux, avec des termes variant de 1 à 5 ans. Donc, on va avoir un montant égal investi dans le 1 an, 2 ans, ainsi de suite, jusqu'à 5 ans.
OK, merci. Maintenant, pour la question de notre auditeur, Raymond, veux-tu faire suite?
Oui, il y a trois aspects à considérer quand on veut comparer des FNB obligataires avec une échelle obligataire. Donc, essentiellement, quand on parle d'échelle obligataire, encore une fois, on parle d'obligations individuelles. Premièrement, il y a le risque de défaut. Si vous envisagez d'acheter des obligations échelonnées d'entreprise ou moindrement des titres qui présentent un risque de faillite, vous avez besoin de diversifier votre portefeuille. Puis c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec une échelle d'obligation. Vous devez recourir à un FNB. Deuxièmement, vous devez tenir compte du coût d'investissement. L'achat et la vente au détail d'obligations individuelles, ça implique des commissions qui sont élevées. Chaque fois qu'une obligation arrive à échéance, vous payerez à nouveau une commission parce qu'il faut réinvestir l'argent. Mm-hmm. Si au contraire, vous achetez un FNB obligataire, vous déléguez la négociation des obligations sous-jacentes aux fournisseurs de FNB qui bénéficient de prix préférentiels sur le marché institutionnel. Gardez à l'esprit que les fournisseurs d'FNB transigent des millions de dollars d'obligations chaque jour. Ils disposent donc d'un pouvoir de négociation pour obtenir des prix bien meilleurs que vous. Alors que les coûts de transaction sont beaucoup plus faibles pour les FNB obligataires que pour les obligations individuelles, les FNB entraînent eux-mêmes des coûts supplémentaires. Les investisseurs dans les FNB doivent payer un ratio des frais de gestion, ou RFG, qui peut être aussi bas que 0,9% par an. De plus, vous paierez une petite commission pour acheter l'FNB en bourse. Vous allez la payer une fois au début. Hein? Enfin, il y aura l'écart acheteur-vendeur qui s'ajoutera au coût d'achat de votre FNB. Mais rassurez-vous, si vous sélectionnez un FNB largement négocié, cet écart sera probablement minime car le marché des FNB obligataires les plus liquides est très compétitif. Dans l'ensemble, les FNB obligataires offrent des coûts de transaction bien inférieurs à ceux d'une échelle d'obligations individuelles. Enfin, s'ils sont investis dans des obligations présentant les mêmes caractéristiques, une échelle obligataire et un FNB obligataire présenteront essentiellement le même risque de taux d'intérêt. Dans un billet que j'ai publié il y a plusieurs années, j'ai comparé les rendements du ZFS, ça c'est le FNB BMO d'obligations fédérales à court terme. Donc j'ai comparé le rendement de ce FNB-là avec une échelle équipondérée d'obligations du gouvernement fédéral canadien. Donc deux stratégies vraiment très très semblables, le même type d'obligation dans chacune. Donc mon échelle était une échelle de 5 ans également. Il y avait quelques différences entre les deux portefeuilles, je vais vous en citer quelques-unes. L'échelle n'avait pas à payer des frais de gestion ou de commission. Le FNB comprenait des obligations d'agence fédérale, principalement la fiducie du Canada pour l'habitation, la fameuse SCHL qui émet des obligations dans les marchés. Donc, ces obligations-là d'agence fédérale paient des taux d'intérêt légèrement plus élevés. Donc, ça, c'est un facteur qui augmente un petit peu le rendement des FNB.
Oui.
Une autre différence était que les FNB obligataires vendent ces obligations lorsque leur échéance devient moins d'un an, tandis que l'échelle obligataire conserve ses obligations jusqu'à échéance, moment auquel il utilise le produit pour acheter une nouvelle obligation à 5 ans. Donc, quand on regarde le résultat de l'analyse, les résultats étaient très clairs. Sur une base annuelle, les rendements des deux stratégies sont restés très proches, à moins d'un demi pour cent de différence. Puis, quand on regarde sur 5 ans, ces petites différences-là se sont compensées et les deux stratégies ont produit pratiquement le même rendement avec une corrélation proche de la perfection. À mon avis, les FNB obligataires sont largement supérieurs aux échelles d'obligation. Les FNB d'obligation offrent un risque de crédit moindre grâce à la diversification et des coûts d'investissement réduits. Enfin, le risque de taux d'intérêt d'un FNB et d'une échelle obligataire sont pratiquement identiques.
OK. James, as-tu des commentaires?
Oui, j'ai une couple de commentaires, mais premièrement, nous, ça fait des années qu'on a arrêté de créer des échelles d'obligations dans les portefeuilles de clients. L'efficacité au niveau des coûts, au niveau de la liquidité et de la simplicité fait en sorte que c'est de loin plus avantageux pour nos clients d'avoir ou de choisir des stratégies obligataires. De plus, il y a plusieurs composantes de ce panier. On appelle ça le panier « sécure ». Donc, la liquidité, c'est très, très important dans des périodes de crise. Puis ça, des fois, des échelles, bien, les tranches qu'on achète sont peut-être pas aussi liquides qu'on penserait. Donc, il y a cet aspect-là au niveau de gestion de portefeuille. Deuxièmement, j'aimerais souligner pour nos auditeurs que même les investisseurs institutionnels aujourd'hui, de plus en plus, même si on a des milliards sous gestion, investissent dans les fonds transgés en bourse obligataire. Donc, c'est un incontournable. Et on le sait aussi, finalement, qu'il y a des stratégies obligataires avec certains fonds transgés en bourse qui sont très précis puis qui peuvent ajouter de la diversification à même le panier sécure. Et on ne pourra pas se permettre ça avec une échelle d'obligation. Donc, il y a beaucoup d'éléments à ça. Et ça ne veut pas pour autant dire que ceux qui ont des échelles d'obligation, que c'est nécessairement mauvais, mais il faut vraiment s'attendre à conserver ces obligations-là jusqu'à échéance. Finalement, le dernier point, c'est que dans notre gestion, nous, on ne prend pas beaucoup de risques de crédit et de durée. Donc, si on crée une échelle ou dans l'époque où on le faisait, François, je crois qu'on se limitait à 5 ans. Hein?
Oui, exact. Exact.
Exact. Fait que...
Raymond, d'autres commentaires?
Oui, peut-être une dernière petite chose. Parfois, certains investisseurs vont vouloir utiliser une échelle d'obligation pour améliorer l'efficacité fiscale de leur portefeuille d'obligations. Mm-hmm. Donc, on sait que les taux sont en baisse constante depuis 40 ans maintenant. Pour cette raison-là, la majorité des obligations dans le marché sont à prime. Donc, par la force des choses, la plupart des FNB d'obligations contiennent des obligations à prime, donc un désavantage fiscal à ça. Par contre, on peut créer une échelle obligataire avec des obligations qui sont au pair ou en bas du pair. Mais il faut savoir aussi qu'il existe au moins une alternative, sinon plusieurs, dans les FNB d'obligation. Il y a notamment un FNB de la BMO qui s'appelle, dont le ticker est ZDB. Qui investit essentiellement dans des obligations à escompte et qui réplique l'indice universel des obligations. Donc, essentiellement, même si on a de l'argent à investir en obligations dans un compte taxable, on peut tout de même utiliser des FNB d'obligations. Il faut juste bien les choisir en fonction de l'efficacité fiscale.
Excellent. Merci pour ce petit point d'ajout, Raymond. Eh bien, c'est tout pour ce 25e épisode de Sujet Capital. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. N'oubliez pas de vous joindre à nous dans 2 semaines pour notre prochain épisode. James Parkin, Raymond Carzero, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise, votre sagesse.
Ça m'a fait plaisir, François.
Tout le plaisir est pour moi, François.
Merci beaucoup aussi à notre réalisatrice Lise Delaplanche pour sa précieuse collaboration. Et merci encore une fois à vous, chers auditeurs, de nous suivre. À bientôt!